C'était une opération sans garantie de succès. Nous ne savions pas jusqu'à la dernière minute s'il nous serait possible de rentrer dans la bande de Gaza. Il a fallu, côté égyptien, on est rentré par la frontière sud de Gaza, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte. Donc il a fallu bien sûr la coopération des autorités égyptiennes pour arriver jusqu'à la frontière égyptienne de Rafah. Et puis de l'autre côté, nous nous étions accordés avec l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Et nous avons attendu jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire au moment du début de la trêve, pour la trêve, c'est-à-dire de normalement l'arrêt des bombes, même si on a vu pendant cette trêve deux bombes tomber. Eh bien, nous avons attendu les voitures de cette Agence des Nations Unies, qui elle-même a pris sur elle de nous introduire dans la bande de Gaza, alors même que les autorités israéliennes leur avaient envoyé le message contraire, en manifestant leur totale opposition à notre visite. Bien entendu, on ne savait pas non plus le temps dont on disposerait dans la bande de Gaza. En fait, on est allé dans la bande de Gaza dans un temps très court, puisque c'est le temps, entre guillemets, de cette trêve. Dans la mesure où c'est l'Agence des Nations Unies qui mobilisait son personnel, ses voitures blindées et son temps aussi pour nous, et qui a pris sur elle, qui a assumé la responsabilité de nous introduire dans la bande de Gaza, nous ne pouvions pas mobiliser cette agence au-delà de ce qu'elle-même considérait comme raisonnable. Et on a vu d'ailleurs, en sortant de la bande de Gaza, que, donc à la fin de la trêve, qu'il était grand temps, si nous ne voulions pas essuyer les bombes, eh bien de la quitter. Alors évidemment, c'est d'une injustice fondamentale, parce que nous sommes étrangers, nous pouvons quitter la bande de Gaza, mais les Palestiniens sur place, et c'est ça le drame qu'on n'a jamais vu nulle part dans aucune guerre du monde, c'est que des gens bombardés ne puissent pas fuir. Et les Gazaouis ne peuvent pas fuir, donc ils sont piégés et ils sont bombardés, et où que ce soit dans la bande de Gaza, les bombes peuvent tomber, et quel que soit le temps, y compris pendant la trêve, les bombes peuvent également tomber. C'est donc une population qui est en danger. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que toute la communauté internationale, et nous portons notre pression principale évidemment sur les États de l'Union européenne, sur le Conseil et la Commission, doivent aujourd'hui tout mettre en œuvre pour garantir la protection de cette population civile.
Ah, peut-être une précision sur votre expérience là-bas, puisque vous avez témoigné, vous étiez là-bas pour témoigner non seulement auprès du Parlement européen, mais aussi auprès de nombreux médias. Il y a une interview qui a été faite sur le réseau de Radio France, une interview dans laquelle on a presque l'impression que vous faites bombarder dessus. Il y a une bombe qui tombe au moment de l'interview, c'est ça, hein ?
C'est tombé comme ça, quoi. On ne sait pas quand ça tombe, ces horreurs. Et donc, en fait, c'est ce que je vous disais. On est parti un tout petit peu tard, quoi. C'est-à-dire que les avions sillonnaient le ciel et les bombes commençaient à être larguées. Et manifestement, il faut entendre cette bombe qui nous est tombée à 100 mètres comme un signe très clair d'Israël sur le refus que les autorités avaient fait passer de ne pas nous accueillir dans la bande de Gaza. Donc je pense qu'on a compris le message comme ça. On s'est d'ailleurs à ce moment-là réfugié dans un bâtiment qui a été bel et bien bombardé. On l'a vu en rentrant le soir à l'hôtel sur Al Jazeera. On a vu que toutes les vitres de ce bâtiment étaient effondrées. C'est arrivé, oui, effectivement, pendant que je donnais cette interview. C'est ce qui donc a été repris.
Ouais. Alors un mot sur les conditions maintenant de l'acheminement de l'aide humanitaire. Comment ça se passe, le travail des humanitaires là-bas?
Bah écoutez, il manque de tout et l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Alors l'UNRWA a tapé fort du poing pour se faire respecter, puisque après l'attaque sur des convois humanitaires, l'UNRWA a décidé d'arrêter de faire ses activités dans la bande de Gaza pendant une journée. Et finalement, les autorités israéliennes ont en quelque sorte accepté de, entre guillemets, négocier, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas que l'Agence des Nations Unies puisse faire connaître toujours ses positions, ce qui était déjà le cas quand les convois ont été bombardés. Mais il semblerait, en tout cas le jour où nous y étions, il y avait un point de passage qui s'appelle Kerem Shalom, qui est complètement dans le coin sud-est de la bande de Gaza, par lequel, au moment où nous y étions, du matériel était acheminé. Mais je veux dire, ça reste du compte-gouttes. Ça reste du compte-gouttes parce que la population manque de tout. Il n'y a plus d'électricité nulle part, donc ça c'est clair. Il y a un manque d'accès à l'eau potable considérable, un manque de nourriture et aussi pour les soins médicaux. C'est-à-dire que les hôpitaux là sont vraiment dans un état de tension sur le matériel qui est enfin, voilà, qui met des vies en danger. Et d'ailleurs, il y a des gens qui meurent, quoi, pour non-soins. Les blessés les plus graves sont acheminés par le point où nous sommes passés, par Rafah. On a d'ailleurs vu très bien, à plusieurs reprises, les ambulances palestiniennes amenant sur des civières des personnes dans un état manifestement absolument gravissime. Et ces personnes, dans un état absolument gravissime, sont transférées dans des ambulances égyptiennes jusqu'aux hôpitaux du Caire. D'ailleurs, dans la seule journée de dimanche, il y a 35 personnes comme ça, dans une situation critique, qui ont été évacuées par le point de Rafah vers les hôpitaux du Caire.
Alors, je ne sais pas qui vous avez rencontré comme population gazaoui, mais quel est le sentiment qui domine auprès de cette population?
C'est l'accablement, hein, là, je vais vous dire. Alors, il y a eu deux types de réactions différentes, en fait, parce que, bon, il y a énormément, on a visité un centre donc où il y avait 1200 personnes qui sont sans abri, c'est-à-dire leurs maisons ont été bombardées, et ben, il y a les enfants. Et il y a les adultes. Les adultes, les femmes, femmes en pleurs, femmes en deuil, accablement, tristesse, sentiment d'être totalement démunis. Les enfants, eux, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit, nous, arrivés et que du coup c'était quelque chose de... Voilà, d'inattendu, mais ils trouvent encore les moyens, quoi, de sourire, de sauter, de nous attraper les mains, d'avoir les yeux qui pétillent, enfin voilà. Donc, la moitié de la population a moins de 17 ans là-bas. Donc, dans ce centre, il y avait énormément, énormément d'enfants. Et ces enfants, c'est clair qu'ils ont le droit de vivre. Manifestement, ils n'ont pas renoncé à vivre, hein, ils attendent que ça change, quoi. Ils attendent vraiment que ça change. Et donc voilà, c'est des réactions différenciées. Et puis aussi, pendant la trêve, on a vu quelques personnes dans les rues, des petits groupes ici ou là, qui vaquaient probablement à des occupations indispensables pour leur survie. Voilà, mais c'est la tristesse principalement qui dominait sur les visages des adultes. On n'a pas vu, vous voyez, quand on nous dit, on pourrait imaginer comme ça, avec quelques commentaires qu'on peut entendre sur les ondes européennes, que on aurait une population comme ça décidée à mourir en martyr pour la cause ou je ne sais quoi. C'est pas ça qu'on a vu, hein, très clairement. C'est-à-dire les veuves, par exemple, n'arboraient pas avec fierté le portrait de leur mari combattant martyr, mort pour la cause, quoi. Non, ce sont des gens, des enfants, des femmes, des hommes, comme vous et moi, quoi, qui, voilà. Et notre travail, là, vraiment, c'est que l'Union européenne fasse tout ce qu'elle peut, et nous avons le sentiment extrêmement clair que ça n'est certainement pas le cas aujourd'hui, pour que cette population soit protégée, c'est-à-dire que il faut ouvrir les frontières, hein, il faut que l'aide arrive évidemment massivement, il faut que les observateurs arrivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur la nature des armes qui sont utilisées, phosphore, uranium appauvri, armes également dont les conséquences manifestement dénoncées sur les corps, hein, dénoncées par les médecins, sont étranges. Il faut que les observateurs puissent venir, il faut que des enquêtes puissent être menées, il faut que les journalistes puissent rentrer, et il faut le cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu qui doit arriver non pas à la situation d'avant les bombardements, parce que avant les bombardements, c'était pas la vie, hein, c'était pas la guerre, mais c'était pas la vie non plus à Gaza, c'était l'asphyxie permanente. Et on se disait d'ailleurs que tous ces gamins et petites filles qu'on avait vues n'avaient jamais connu de toute leur enfance une vie entre guillemets normale. On ne sait pas ce que c'est une vie normale, mais en tout cas le droit de vivre, de manger, de s'éduquer, de jouer, d'avoir des amis, de venir et d'aller. Voilà, c'est une population piégée et qui est à la merci. Et donc il y a un devoir de protection de cette population.
Ça passe, selon vous, d'abord par une résolution du Parlement européen ?
La résolution du Parlement européen, est toujours bon à prendre, mais il faut aussi des actions extrêmement ciblées au Conseil et à la Commission, parce qu'on n'a pas tout entrepris, évidemment, par rapport à Israël. On a quand même des relations extrêmement denses, commerciales, de coopération sur la recherche, sur la sécurité... relations économiques, on a un accord qui nous lie à Israël qui est stipulé, fondé sur les droits de l'homme et la démocratie. Je veux dire, si on ne mobilise pas cette clause pour agir, et agir, c'est par exemple faire des pressions économiques, suspendre l'importation de tel type de produits ou arrêter tel type de coopération, tout ça doit se discuter finement, mais doit se discuter et doit se faire. Et donc, aujourd'hui, Au contraire d'utiliser et de mettre en œuvre cette clause des droits de l'homme dans nos relations avec Israël, eh bien, on a en décembre, pas le Parlement européen qui, lui, justement, a dit non, c'est clairement pas le moment, mais le Conseil, le 8 décembre, a décidé de rehausser le niveau des relations politiques entre l'Union européenne et Israël. Et c'était évidemment une tragique erreur, parce que parce que le Parlement avait dit que c'était certainement pas le moment et que le Conseil aurait bien fait de nous écouter. Deux, parce que les rumeurs sur une opération militaire massive dans la bande de Gaza, couraient dans toutes les ambassades. Donc c'est complètement honteux, parce que pour les autorités israéliennes, cette décision du Conseil du 8 décembre, ça n'a pu être vécu, c'était quand même 19 jours avant le début des opérations, a été vécu évidemment comme un laisser-faire, un blanc-seing et a priori pour cette opération de la part de l'Union européenne. Donc je crois que là, le Conseil porte une très très lourde responsabilité.
Un dernier mot avec vous, Hélène Flautre, c'est sur la mobilisation pacifiste en France. Alors il y a une énorme mobilisation, on a vu même dans la région Nord-Pas-de-Calais une grosse manifestation lilloise à plus de 10 000 personnes. Donc comment vous voyez cette mobilisation-là ? Bon, on peut dire quand même qu'elle est aussi ternie par quelques relents antisémites.
Écoutez, que l'action qui est menée aujourd'hui par Israël dans la bande de Gaza provoque la colère, le rejet, la condamnation, ça me paraît une réaction absolument saine de tout citoyen attaché à la paix. Il est clair que ça peut aussi, dans certains cas, cette colère, cette condamnation pourrait, dans certains cas, se transformer en haine tenace. Ça amènerait les mobilisations, au lieu d'agir, d'être facteur de paix dans la région, pourrait amener au contraire des tensions. Moi je crois que très assurément que ça n'est pas du tout le contenu essentiel de ces mobilisations aujourd'hui. Qui est des slogans, on entend Israël assassin, oui, il y a 1000 morts quand même à Gaza. Dont plusieurs ont été des centaines ont été d'abord la moitié c'est des femmes et des enfants ont été tués dans des conditions qui sont celles qu'on peut qualifier de crimes de guerre, c'est-à-dire quand on envoie des bombes dans des écoles, dans les maisons, dans les hôtels de police, dans les mosquées, dans les universités, on s'attaque à des infrastructures publiques, on s'attaque à la population civile directement. Enfin, c'est pas très étonnant que ça génère un vif rejet, une vive condamnation. Maintenant, moi, je crois qu'évidemment, il faut toujours être infiniment vigilant pour que cette mobilisation soit aide à mettre la pression pour obtenir un cessez-le-feu, pour obtenir l'ouverture de la bande de Gaza, pour obtenir le retrait total d'Israël des territoires palestiniens occupés à ce jour. et que tout ce qui peut être facteur de haine, de tension ou de conflit, eh bien, doit être dénoncé.